Marie-Amélie Le Fur, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci d'avoir accepté mon invitation, malgré ces temps difficiles. Mais surtout, merci d'avoir accepté mon invitation parce que vous êtes en plus en pleine préparation pour les JO. Donc vous m'avez accordé de quelques de vos minutes et je vous en suis profondément reconnaissant. Merci beaucoup. Alors je voudrais commencer par une citation. Un jour, on demandait au médecin Carl Gustav Jung, on lui posait la question « Qui êtes-vous ?» Et voilà quelle fut sa réponse. « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir. » Marie-Amélie Le Fur, à votre tour, qui êtes-vous et qui décidez-vous de devenir?
Je trouve que cette citation, effectivement, elle est très belle et je pense que c'est ce message-là qu'on doit porter à la jeunesse et aux jeunes. C'est finalement, peu importe ce que l'on fait, peu importe ce qui nous arrive, l'important est toujours de rebondir pour finalement s'emparer des situations qu'on vit. Et je pense que ce discours, il fait totalement écho à ce qu'on est en train de vivre. Et ça fait aussi écho à mon histoire, parce qu'on pourrait effectivement me caractériser en disant que je suis cette athlète qui, à l'âge de 15 ans, a perdu une jambe. Mais en tout cas, je l'espère, je suis bien plus que ça. Voilà, je pense que je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime les défis. C'est aussi pour ça que j'ai accepté, je crois, cet entretien aujourd'hui. Et qui je vais devenir? Et ben ça, je ne le sais pas, tout simplement parce que le but de ma vie, c'est d'être disponible aux opportunités qui s'offrent à moi. Il y a 2 ans, je n'aurais jamais pensé être présidente du comité paralympique. Il y a un peu plus de 15 ans, je n'aurais jamais pensé faire les Jeux paralympiques. Donc c'est aussi ce qui est la beauté de la vie, en fait, c'est d'être confronté à des imprévus, d'être confronté à des difficultés, à des nouveautés qui nous offrent des possibilités. Donc voilà, je ne sais pas les possibilités qui me seront offertes après mon arrêt de carrière à Tokyo. En tout cas, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être heureuse et c'est de vivre pleinement chaque minute qui m'est donnée de vivre dans cette vie qui est juste magnifique et trépidante.
Ah, magnifique message. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous raconter les grandes lignes de votre carrière?
Donc c'est au début, j'ai une enfance, en fait, on va dire très classique. Voilà, je suis élevée par mes parents, aux côtés de ma grande sœur, dans des valeurs de la famille, les valeurs du sport, puisque très jeune, en fait, je vais commencer l'athlétisme sur demande de ma grande sœur. Donc à l'âge de 6 ans, je chausse les chaussures pour rejoindre les terrains d'athlétisme. Pas avec grande passion au début, c'était voilà, pour faire plaisir que j'y allais. Et puis petit à petit, finalement, je commence à prendre plaisir dans ce sport. Pour être honnête, parce que j'y ai de la réussite. Voilà, ouais. Je suis en capacité de mener des projets, de les réussir, et c'est épanouissant pour moi. Mais aussi parce que j'y trouve un lien social très fort. Je fais de très belles rencontres dès le plus jeune âge dans ce circuit sportif, mais pas du tout avec l'ambition d'en faire mon métier. Moi, à l'époque, et notamment à l'âge de 10 ans, je décide de devenir sapeur-pompier professionnel. Véritablement, voilà. C'est au-delà d'être une passion, c'est une véritable ambition. Pour moi, c'est un métier qui correspond à mes valeurs, qui correspond à mes envies. Et j'intègre à l'âge de 11 ans l'école des jeunes sapeurs-pompiers, donc qu'on fait en parallèle du circuit scolaire classique, pour apprendre le métier de pompier. Et malheureusement, on peut le dire comme ça, ou peut-être heureusement, je ne sais pas, le 31 mars 2004, je suis victime d'un grave accident de la circulation. Je suis renversée par une voiture, accident à la suite duquel je dois être amputée d'une jambe quelques jours plus tard.
Vous étiez en scooter, c'est ça?
J'étais en scooter, exactement. C'est une voiture en centre-ville qui m'a coupé la route. À la suite de ça, malheureusement, voilà, les médecins sont contraints de m'amputer quelques jours plus tard. Mais par la force de mon entourage, par, je pense aussi, cette capacité à aimer la vie, et bah très vite, je décide de rebondir, parce qu'en fait, indirectement, je ne veux pas être responsable du fait de gâcher ma propre vie et de gâcher celle de mon entourage. Voilà. Cette tristesse, en fait, qui régnait à ce moment de l'accident dans mon cercle familial, c'était très pesant pour moi, ce n'était pas quelque chose dont j'avais l'habitude, et je n'avais pas envie de ça pour ma famille, pour mes parents, pour ma sœur. Donc très vite, en fait, je comprends que j'ai les cartes en main, j'ai la possibilité de faire en sorte que cette vie, elle soit effectivement différente de celle que j'avais imaginée, mais qu'elle soit pas moins belle. Et comme le métier de sapeur-pompier s'était terminé en raison de cet accident, je décide de me reconstruire au travers de cet autre moteur de vie qui est le sport, qui est l'athlétisme. Et au fil des années, finalement, de réapprendre à recourir, d'embrasser une carrière d'athlète de haut niveau et après d'avoir cette ambition et ce projet de devenir championne paralympique, chose que nous atteignons en 2012, puis une seconde et une troisième fois en 2016. Et après, finalement, c'est le parcours de vie d'une simple athlète de haut niveau, c'est-à-dire des entraînements au quotidien. C'est aussi un engagement au-delà du mouvement sportif, dans le mouvement associatif et notamment dans le mouvement du sport handicap, parce que je voulais... je pense rendre un petit peu de tout ce que j'avais reçu tout au long de ma carrière et notamment au moment de l'accident où on a été énormément soutenu et ce qui m'a amené en 2018 à mettre en parenthèse ma carrière professionnelle chez EDF pour prendre le poste de présidente du comité paralympique.
Vous avez été nommée par Emmanuel Macron ou comment?
Pas du tout, en fait c'est une élection, donc oui. Le comité paralympique, voilà, on est élu par les administrateurs. D'accord. Et les membres du comité paralympique, donc j'ai été... On m'a gentiment soufflé le fait que je pourrais devenir candidate. Pour être honnête, c'était quelque chose que je n'avais pas du tout pensé ou imaginé à l'époque parce que j'étais en carrière sportive. J'avais des projets familiaux à cette époque-là. J'étais salariée chez EDF et cette vie finalement me convenait bien. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je crois que j'aime les défis. Et quand Emmanuel Assmann, qui est la précédente présidente du comité paralympique, m'a annoncé sa démission et dans la foulée m'a dit « voilà, je pense que tu es un bon profil ». Ça m'a questionnée. Au début, j'ai dit non parce que je ne me sentais pas à la hauteur, parce que c'est beaucoup de responsabilités, parce que être à la tête d'un mouvement qui a cette importance dans votre vie, c'est très engageant. Et puis au fil des discussions, au fil des rencontres, finalement, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure et j'y ai pris énormément de plaisir, beaucoup de bonheur et j'espère apporter au mouvement paralympique le meilleur de ce qu'il a besoin actuellement et dans un futur proche.
Vous portez un discours à la fois magnifique, on a envie de vous suivre, on a envie de courir avec vous. Je vois que vous avez apporté vos... Je ne sais pas comment vous pouvez les présenter.
Alors, c'est des prothèses de course ou des lames. Généralement, on appelle ça classiquement des lames. Donc, c'est vraiment le matériel spécifique pour la course. Donc, on a deux modèles. On a le modèle vraiment compétition. Et ça, c'est un modèle un peu plus, on va dire, grand public qui permet de reprendre l'activité sportive. Ça paraît tout simple comme ça, mais en fait, ces prothèses, c'est ce qui me permet au quotidien d'exprimer mon art, prendre du plaisir et surtout de prendre du plaisir dans le respect de mon corps. Parce qu'avec les prothèses de vie de tous les jours, dans la mesure où on n'a pas ce mécanisme du ressort et de ce renvoi d'énergie, et bien potentiellement, on va avoir beaucoup plus de mécanismes de compensation par le corps et plus de fragilité au long terme. Donc ces prothèses, c'est à la fois du confort, c'est à la fois de la performance et c'est aussi pour moi la capacité à pouvoir faire du sport durablement dans le temps. Parce que c'est important pour moi, effectivement, même si je suis sportive de haut niveau, même si on sait que les heures d'entraînement, c'est de l'irrespect corporel, d'essayer dans cet irrespect de respecter le plus possible mon corps en lui donnant du sommeil, en lui donnant l'alimentation dont il a besoin et surtout en utilisant du matériel qui est adapté dans la durée.
On va reparler de l'irrespect tout à l'heure, mais je ne sais pas si peut-être vous l'avez lu ce livre en 2019, Boris Cyrulnik et Philippe Bourse, le médecin et le psychiatre, psychologue, ont écrit un livre, ont co-écrit un livre intitulé « Sport et résilience ». Et je crois que vous êtes la femme de la résilience, si je puis m'exprimer ainsi. Et dans ce livre, il pose plusieurs questions, dont une hyper importante, je trouve. Comment inclure davantage les athlètes atteints de handicap dans les épreuves de haut niveau ? Il souligne que les sportifs ont beaucoup à nous apprendre, ce qui permet de surmonter l'adversité, ce qui permet aussi de surmonter le regard des autres. Parce que je crois que, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez en témoigner, mais comment avez-vous vécu le regard des autres face à votre handicap après votre accident et que dans les avec tous les championnats que vous faites?
En fait, je pense que, parce que moi, il faut remettre dans le contexte que mon accident, je l'ai eu au moment de l'adolescence. Ce moment où finalement, le regard de l'autre compte, peut compter beaucoup.
Oui,
vous avez énormément de changements corporels, de bouleversements. Donc, c'est déjà une période qui, dans la vie de toutes les personnes, n'est pas une période facile. Et je pense véritablement que le sport m'a beaucoup aidé dans cette période-là et m'a énormément aidé après l'accident à m'affirmer en tant que femme en situation de handicap. Tout simplement parce que lorsque j'étais sur le temps sportif, j'enfilais cette prothèse qui est très particulière, que les gens à l'époque n'avaient pas du tout l'habitude de voir, ne connaissaient pas. Mais finalement, ces regards qui se posaient sur moi lorsque j'étais sur l'acte sportif, ils ne me dérangeaient pas, ils ne me faisaient pas mal, ils ne me blessaient pas, parce que je me disais que de toute façon, j'étais en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire reprendre le sport après un accident. Donc j'avais terriblement confiance en moi dans l'acte sportif. Et puis je me disais aussi que les gens ne me regardaient pas moi, ils regardaient la prothèse parce qu'elle était particulière. Et ça paraît en fait très insignifiant quand on le dit comme ça. Mais le fait de pouvoir, sur le temps sportif, accepter ce regard et comprendre que ce n'est pas un regard méchant, et bien derrière, on peut assez facilement le transposer dans la vie de tous les jours. Et ce qui fait que, avec les années, en fait, et bien ce regard des autres sur moi, il glisse totalement. Je ne le prends pas mal. Et c'est en ça, en fait, où je mène aussi ce combat depuis de nombreuses années, qui est de prôner l'importance du sport pour les personnes en situation de handicap. Parce que le sport, il a ce double effet de donner à la personne en situation de handicap confiance en elle, de favoriser sa compréhension aussi d'elle-même, de permettre à la personne en situation de handicap de comprendre ses propres limites et non pas de vivre dans les limites que vous impose la société. Je pense que ça, c'est aussi absolument essentiel. Et le sport, et ça vous l'avez dit dans votre question, le sport, il a aussi cette capacité de démontrer le potentiel et les capacités de la personne en situation de handicap. Donc, si on sort effectivement de cette simple question qui est de est-ce qu'on devrait mettre plus de sport dans les compétitions valides ou plus de personnes en situation de handicap dans le champ du valide, nous ce qu'on aimerait, en tout cas moi ce que j'aimerais, c'est d'avoir beaucoup plus de valorisation de nos sportifs en situation de handicap lors des Jeux paralympiques, lors des compétitions et tout simplement voilà, beaucoup plus aussi de valorisation des sportifs en situation de handicap pour ce double message à la fois vers les citoyens français mais aussi plus directement un message de positivité et de possibilité vers les personnes en situation de handicap.
Oui, et pour reprendre le livre de Cyril Nick et Bourse, comment pour vous et selon vous le sport favorise-t-il le développement de la résilience? Parce qu'il y a quand même beaucoup de, comme je vous disais, je me permets de vous dire, vous êtes la femme de la résilience, le sport comment favorise-t-il cela?
Ben, je pense qu'il y a plusieurs choses. Après, il y a plusieurs choses. La première, et là je vais prendre mon exemple, et ça ne vaut pas forcément pour tout le monde, mais moi dans mon cas, le sport dans cette période de la résilience m'a permis de définir cet objectif qui est très important, c'est-à-dire que j'avais besoin de rebondir, je devais rebondir, je devais me reconstruire après cet accident, mais se reconstruire vers où? Vers quoi? Voilà. Et finalement, le sport a été ce moteur, a été cet objectif qu'on a pu verbaliser, qu'on a pu matérialiser et qui a permis en fait de donner un chemin à la résilience, qui a permis de tracer cette route vers l'acceptation du handicap. Et au-delà, effectivement, d'avoir cet objectif qui était matérialisé, il y avait véritablement aussi une capacité à se comprendre en tant que personne en situation de handicap. Et dès l'instant que l'on se comprend, dès l'instant que on arrive à se réapproprier ce nouveau schéma corporel, on s'accepte mieux et derrière on est beaucoup plus en capacité de rebondir et d'avancer avec finalement ce nouvel être que le handicap nous a donné d'être.
D'accord. Alors vous parlez d'un schéma corporel. Je voudrais essayer de faire le lien entre le corps et l'âme. Et pour cela, Jean-Jacques Rousseau faisait le lien lui-même entre le corps et l'âme du sportif. Et voilà ce qu'il disait, je le cite, « Il faut que le corps ait de la rigueur pour obéir à l'âme. Plus le corps est faible, plus il commande, plus il est fort, plus il obéit. » Marie-Amélie Le Fur, quel est selon vous le rapport que doit entretenir le corps du sportif avec son âme ?
Alors avec son âme, je ne sais pas parce que je ne saurais pas véritablement la définir. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le sportif doit véritablement avoir une alchimie entre son mental, ses envies et ce qu'il est physiquement. Et effectivement, la préparation physique du sportif, elle est absolument essentielle. Mais la préparation mentale l'est tout autant parce que un sportif, il a beau être prêt physiquement le jour J, si mentalement, si moralement, il n'est pas au clair dans son projet, si mentalement le jour J, il n'est pas capable de lâcher prise et finalement de laisser à ce corps cette capacité de s'auto-exprimer, et ben la performance sportive, elle ne sera pas magique, elle ne sera pas pleine et finalement, elle permettra pas au sportif d'être totalement libéré. Donc c'est toute la complexité, je trouve, du sportif de haut niveau, c'est de trouver ce juste équilibre entre la place du corps, entre la place du mental et dans les périodes d'entraînement, dans les périodes de compétition, l'équilibre à trouver n'est pas forcément le même. Et c'est pour ça en fait qu'on voit de plus en plus peut-être aussi de sportifs qui ont des carrières qui durent. Voilà, de plus en plus on a des sportifs qui durent à 32, 33, 35 ans. On pense, mais peut-être à juste titre, que c'est aussi parce qu'on protège plus les sportifs dans l'entraînement. Mais je pense aussi c'est parce que finalement ce rapport au corps et ce rapport au mental du sportif est beaucoup plus maîtrisée et finalement cette notion d'expertise, de connaissance de soi et du lâcher prise permet à des sportifs d'être plus présents plus longtemps parce qu'avec moins d'entraînement, on peut, dès l'instant que l'on se connaît bien, finalement continuer à exprimer des performances qui permettent de rester des athlètes de très haut niveau.
Et comment réagissez-vous à la... Parce qu'il y a une question que je vais vous poser, peut-être je vous la pose et après je vous donnerai la réaction de cet écrivain, cet auteur. Tout simplement pour vous, qu'est-ce que le sport ? Comment définir le sport ? Non pas être sportif, mais le sport en lui-même.
Le sport, c'est, pour moi, c'est la capacité d'expression de soi-même. Une capacité d'expression physique, une capacité d'expression mentale. Voilà. Alors, c'est peut-être une définition très réductrice du sport, mais moi, j'ai envie de le définir ça parce que déjà, de le définir comme ça permet de le sortir totalement de la notion de sport-loisir, sport-compétition. Et pour moi, le sport, c'est une véritable expression de soi-même. En tout cas, c'est une capacité, finalement. En tout cas, c'est un levier pour s'exprimer en tant que personne, en tant qu'être. Mais que ce soit sur le côté physique, que ce soit sur le côté mental, que ce soit sur le côté social. Et le sport a toutes ces vertus-là.
Parce que je crois que vous rejoignez la définition de l'auteur et l'écrivain Jean Giraudoux, qui, je le cite, affirme « Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus de l'âme. » Et il parle des vertus, il souligne que ce soit l'énergie, l'audace, la patience. C'est le contraire de la maladie. Autrement dit, l'énergie, l'audace et la patience. Comment réagissez-vous à cette définition ?
Ben moi, je suis totalement en accord avec ça parce qu'effectivement, le sport nous permet de développer énormément de vertus et ces vertus finalement que l'on trouve au travers du sport, encore une fois, que ce soit du sport loisir ou du sport compétition, tout dépend le modèle intrinsèque qui correspond à la personne, permet d'avoir ce développement-là. Et après, mais voilà, parce qu'il fallait peut-être la résumer, heureusement, le sport, ce n'est pas simplement ces trois vertus, c'en est beaucoup d'autres. Et encore une fois, le sport, c'est une véritable découverte. C'est un moment aussi d'introspection sur soi-même qui permet d'aller toujours plus loin et de flirter finalement avec ses limites, de se dire est-ce que je suis capable, est-ce que je ne le suis pas, quelles sont mes véritables limites, de se prouver des choses et donc aussi de se découvrir petit à petit soi-même.
Nous sommes dans le cercle devenir pour agir. Ma question est toute simple. Apprenez-vous à devenir vous-même à travers la compétition, en faisant du sport finalement à haut niveau.
Je ne sais pas si on apprend à devenir soi-même, en tout cas on apprend qui on est réellement. Et c'est ce qui est assez surprenant avec le sport, c'est qu'on a cette capacité finalement à découvrir tout notre potentiel. Je pense effectivement que c'est peut-être... un tort que l'on a, c'est de ne pas suffisamment se comprendre, de ne pas suffisamment se connaître. Et c'est terriblement vrai, malheureusement, pour les personnes sur son handicap, de se mettre beaucoup trop de barrières, de penser que nos limites, elles sont beaucoup plus proches enfin de notre corps que finalement ce qu'elles sont réellement. Et le sport, encore une fois, a ses vertus, à ce potentiel, c'est de nous permettre d'explorer des champs que l'on se pensait incapable de maîtriser. Et quand vous vivez dans une société qui met énormément de barrières aux personnes en situation de handicap, qui veut leur coller énormément de préjugés sur l'incapacité, sur l'impossibilité, sur voilà, la non-faisabilité, et bien finalement le sport permet de véritablement se réapproprier et de démontrer et d'envoyer des messages très positifs aux personnes qui nous entourent.
Oui, je pense que vous avez entièrement raison. Je voudrais rebondir sur poser une nouvelle question. Vous en avez parlé tout à l'heure, à savoir le soin du corps. Les sportifs de haut niveau que vous êtes, quelle est la place du corps ? La santé du corps, on dit souvent, on parle de la santé du corps pour le sportif. Quelle est la place du soin du corps ? Parce que Platon, dans l'Antiquité, n'aimait absolument pas ça. Pour lui, prendre soin de son corps, c'était vraiment revenir aux bassesses de terrestres et non s'élever au monde divin, au monde des dieux, etc. Cependant, Aristote lui a dit, fais attention, il faut quand même prendre soin de son corps parce qu'on doit être responsable, on doit être responsable de son corps. Et qui dit responsable, c'est que le corps attend quelque chose de nous. C'est une réponse que le corps attend. En tant que sportif de haut niveau, Marie-Amélie Le Fur, quelle est la place, premièrement, de votre corps, du soin du corps, et pourquoi le corps doit-il avoir une aussi grande importance dans votre carrière ?
Alors, l'importance du corps, elle est facile à dire. C'est que le sport, c'est notre outil, enfin, le corps, c'est notre outil de travail. Si on le maltraite, si on le blesse, on ne peut plus faire notre travail qui est d'être sportif de haut niveau. Par contre, la relation qu'on a avec notre corps, pour moi, c'est une relation donnant-donnant. À un moment donné, on ne peut pas demander tout le temps au corps de nous donner le meilleur de lui-même, de nous donner ses pleines capacités, ses pleines possibilités, si derrière, on ne le respecte pas. Donc, on a aussi besoin, nous, en tant que sportifs de haut niveau, de nourrir ce corps positivement, de lui donner ce repos qui est nécessaire à sa reconstruction, de lui donner les nutriments qui sont nécessaires à sa construction, à sa structuration et à son développement. Donc c'est vraiment une relation voilà, de donnant-donnant, et surtout c'est une relation qu'on doit construire dans la durée, parce que ce corps, au-delà d'être un outil de travail, c'est quelque chose dont on a besoin au quotidien, et surtout on a besoin dans la durée. Et si sur un temps très court on ne respecte pas suffisamment ce corps, ce capital santé, bah finalement malheureusement on va le payer aussi dans le futur. Donc moi je mets beaucoup de place dans le soin du corps, non pas dans sa version médicalisée, puisque je fais pas appel à des kinés, je fais pas appel à toutes les techniques de cryothérapie qu'on connaît actuellement, parce que c'est pas mon modèle de sportif de haut niveau. Pour moi, respecter le corps, c'est lui donner le sommeil dont il a besoin pour se reposer, pour se reconstruire, pour se régénérer. C'est lui donner l'alimentation et l'hydratation qui est absolument nécessaire. Donc c'est des méthodes qui sont très simples, mais qui pour moi en fait correspondent voilà à ce qu'il a besoin pour que derrière il soit en capacité sur les moments d'entraînement qui représentent quand même un volume horaire assez conséquent par semaine, qu'il soit en capacité de me donner 100% de ses pleines possibilités. Voilà, donc c'est des alternances entre des temps très importants et des temps où moi je vais prendre soin de lui, mais encore une fois par des méthodes très naturelles.
Une toute petite question, combien d'heures d'entraînement vous faites par jour en prévision des JO ?
On est globalement entre 3 et 6 heures d'entraînement par jour.
Ah oui.
Sachant que moi, j'ai quand même un jour off dans la semaine qui est mon dimanche. Voilà, c'est la chance que j'ai depuis que je suis devenue maman, c'est d'avoir ce jour-là qui est totalement dédié à ma famille. Donc on est sur des volumes horaires effectivement qui représentent entre 18h et 20h par semaine. Tout cela à concilier aussi avec une vie professionnelle, puisque je ne suis pas athlète à plein temps.
Oui, vous travaillez à EDF, non ?
Chez
EDF,
alors j'ai travaillé effectivement pendant 5 ans chez EDF avec un aménagement de l'emploi du temps, c'est ce qui ça. Me permettait voilà, de préparer sereinement l'avenir. Et là on revient à cet équilibre qu'on doit trouver entre le corps et l'esprit. Et pour moi, j'avais besoin effectivement d'avoir quelque chose à côté du sport pour être pleinement épanouie dans mon schéma de femme dans mon schéma de personnes avec des interactions sociales. J'avais besoin aussi de travailler, de trouver au travers du travail. Et depuis 2018, je suis présidente du comité paralympique. Donc en ça, voilà, je suis mise à disposition par mon employeur qui est EDF pour occuper cette mission en parallèle du sport de haut niveau.
Je crois que vous avez résumé. Je ne sais pas si vous connaissez Philip Roth, l'écrivain américain, qui affirme, et je crois que ça rentre complètement dans ce que vous venez de dire, en sport, il y a les 3 D. La détermination, la disponibilité et la discipline. Vous venez de parler de la disponibilité, que vous étiez disponible, etc. Vous êtes complètement déterminé, n'est-ce pas? Et le sport est une discipline à part entière qu'il faut avec beaucoup de rigueur et beaucoup de... Je crois que vous incarnez ces 3D peut-être dans votre... en tant que sportif de haut niveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors je ne sais pas si je les incarne totalement. En tout cas, je pense qu'effectivement, c'est une belle recette du succès, ces 3D, parce que voilà, c'est encore une fois, c'est ce juste équilibre entre l'abnégation, la détermination, le travail, le respect, et c'est de trouver voilà ce juste équilibre dans tout ce que demande le sport de haut niveau au quotidien en termes de nombre d'heures d'entraînement, entre voilà le juste équilibre entre le travail et le repos. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement ce 3D c'est peut-être la recette du succès qu'on devrait présenter très tôt dans les carrières de nos athlètes de haut niveau, et pour moi c'est aussi respecter ces 3D, c'est aussi encore une fois avoir des carrières qui sont durables, parce que de plus en plus je pense qu'il faut aussi penser que nos athlètes ils doivent avoir des carrières qui sont de plus en plus longues, parce qu'on les recrute de plus en plus tôt, parce qu'on a envie qu'ils sortent du milieu paralympique de plus en plus tard. Donc il faut, si on veut avoir ces carrières qui sont durables, respecter à la fois physiquement mais aussi moralement nos athlètes de haut niveau dans les préparations et les entraînements qu'on leur donne.
Oui, je crois malheureusement l'interview va bientôt se terminer, mais vous avez, me semble-t-il, une autre passion en dehors du sport, c'est que vous témoignez beaucoup, que ce soit auprès des jeunes, auprès de toute personne, et beaucoup de jeunes vous suivent, vous admirent, voient votre parcours, vous êtes très inspirante pour eux. Et je voudrais citer Nelson Mandela qui affirme « L'éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités » et transcender les différences, et le sport est une source d'inspiration, de dépassement, de tolérance et d'apprentissage du respect de la jeunesse. Ces deux éléments participent à créer une société plus juste et plus fraternelle. Marie-Amélie Le Fur, beaucoup de jeunes vous suivent, écoutent ce que vous dites. Quel est aujourd'hui le message d'espérance que vous pouvez leur adresser ?
Le message d'espérance, si je veux être très courte, c'est de leur dire que derrière toute voie compliquée, derrière toute difficulté, derrière tout drame, il y a toujours des opportunités à saisir. Et je pense que ça, c'est aussi à relier totalement à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et moi, je suis intimement convaincue que finalement, toutes ces erreurs de parcours, toutes ces difficultés, toute cette adversité qu'on doit affronter dans la vie du quotidien, c'est aussi ce qui nous construit, ce qui nous amène quotidiennement à nous réinterroger. Et moi, je suis intimement convaincue qu'on doit sortir de nos routines, on doit s'appliquer du changement. Et les changements les plus faciles à vivre ne sont pas ceux qu'on nous impose, ce sont ceux qu'on choisit. Donc si j'avais un message à donner à la jeunesse, c'est de leur dire, voilà, n'ayez pas peur du changement, osez vous appliquer de la nouveauté, parce que même si ça fait peur, même si c'est de l'inconnu, bah finalement c'est comme ça qu'on se réinterroge positivement. Et dans la vie, le seul échec, c'est l'immobilisme. Voilà les messages essentiels que j'aimerais porter auprès de la jeunesse, et de leur donner tout simplement foi dans leur capacité à créer l'avenir. Et encore une fois, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, je suis sûre que dès l'instant qu'on est alerte à ce qui nous entoure et aux opportunités qui nous sont offertes, on est capable tous ensemble de créer de belles choses.
C'est très beau ce que vous dites, ça me fait penser. Quand je suis allé voir votre site, j'ai beaucoup aimé « Fait de ta vie, 3 points de suspension, un rêve ». Et ça me faisait penser à Martin Luther King qui disait « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement ». Je trouve ça extraordinaire et ça me faisait penser à votre ligne de conduite que vous nous avez aujourd'hui si bien témoigné Et vraiment, merci de nous avoir témoigné de votre joie de vivre. Vous êtes rayonnante, merci beaucoup de votre parcours inspirant. Vous êtes une personne très inspirante. Merci d'avoir pris de votre temps pour ces quelques minutes. Et je voudrais finir en donnant la parole par le gagnant du marathon de New York en 1989. Il affirme, il s'appelle Yuma Ingang'a, il affirme, je le cite, « La volonté de gagner ne signifie rien sans la volonté de se préparer. » À quelques mois des JO de Tokyo, Marie-Amélie Le Fur, je vous souhaite une excellente préparation et sachez que nous serons là pour vous encourager, pour vous soutenir jusqu'au bout et j'espère, en tout cas, je vous le souhaite, pour vous voir au sommet du podium. Merci infiniment.
Merci.